rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence pour votre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Et pendant tout ce mois d'octobre, nous sommes accompagnés par Monseigneur Echen. Bonjour Monseigneur.
Bonjour à vous.
Évêque de Couseran, Mirepoix et Pamiers, dans le désordre.
Voilà.
Les semaines précédentes, vous pouvez toujours retrouver les émissions au podcast, hein, nous avons parler ensemble de la révision des lois de bioéthique et puis la semaine dernière de ce mois d'octobre, mois missionnaire mondial. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'écologie, un sujet qui vous tient fort à cœur, Monseigneur Echen. De l'écologie, mais pas seulement, de l'écologie et de la désobéissance civile. Vous êtes connu, Monseigneur Echen, comme l'évêque de l'écologie, un petit peu. On se souvient du document synodal que vous avez publié il y a deux ans maintenant.
2017, oui, c'est ça, deux ans.
Voilà. Comment est-ce que vous vivez le temps d'aujourd'hui ?
Alors, j'essaie de le vivre selon deux registres. Alors, un registre de, j'allais dire, un peu d'angoisse, parce que plus on avance, et plus on se dit, mais si on ne finit pas par prendre de vraies décisions, finalement, on va se trouver face à une situation d'effondrement. Il y a aujourd'hui des théoriciens d'effondrement, on appelle ça aussi les collapsologues, qui disent, mais la question de savoir si notre système, non seulement économique, mais les équilibres mondiaux des flux de population et notre écosystème, tout cela, la question n'est pas de savoir si ça va s'effondrer, la question c'est de savoir quand ça va s'effondrer. Donc on pourrait se dire, c'est une vision un petit peu pessimiste, mais ils partent du principe, certains les appellent les apocalyptiques, ils partent du principe que si à un certain moment on ne va pas de manière frontale vers cette idée que tout est en train de s'écrouler, on va tranquillement continuer à vivre comme on vit jusqu'à maintenant et continuer à dégrader très sérieusement notre planète, notre manière de vivre ensemble, et cela aura des conséquences dramatiques. Donc ce n'est pas une manière de jouer sur la peur pour que les gens se bougent, mais il peut y avoir un petit peu de ça en disant « acceptons de dire les choses comme elles sont », de ne rien cacher, et sans doute que ça nous aidera, et on voit bien ça dans les jeunes générations. Je pense à je citerai pas son nom parce que ce serait pas très discret, puis je n'ai pas son autorisation, mais à quelqu'un qui est dans un horizon très parisien et qui jusqu'alors était engagé dans des milieux ecclésiaux très versés dans l'annonce directe, l'annonce de rue. Et qui a passé la main par rapport à un certain nombre de responsabilités qu'il exerçait et qui a rencontré dans les milieux écologistes, y compris chrétiens écologistes, des gens qui sont dans cette approche-là, en disant le système est en train de s'écrouler, il nous faut radicalement changer de style de vie. La notion de style de vie, c'est une notion que le pape François reprend très fréquemment. Il dit aujourd'hui, on ne peut pas continuer à se dire, voilà, bon, je suis un peu en retard pour mon rendez-vous à Paris, tant pis, je prends l'avion, c'est pas grave, continue à utiliser inconsidérément toute forme de plastique. À un certain moment, en quelque sorte, on pourrait dire que certains, qui ne sont pas nécessairement catholiques, comme Pierre Rabhi, qui prônait depuis longtemps la sobriété heureuse, eh bien, on commence à se rendre compte que ces personnalités-là étaient en avance sur la prise de conscience qui aujourd'hui se répand.
Vous avez de l'estime pour Greta Thunberg ?
Alors, je trouve que, je ne la connais pas très bien, mais je trouve que des gens de sa génération, avec cette facilité de parole qu'elle peut avoir, ou ce charisme, susceptible de sensibiliser les gens de leur génération. Vous savez, on a longtemps parlé d'évangélisation des jeunes par les jeunes. Oui. Je pense que c'est utile. Alors, est-ce que c'est la voix qui portera le plus pour faire évoluer nos gouvernants, dont on a l'impression que, parfois de manière un peu cynique, ils se disent, bon, si ce système économique dont on sait qu'il est à bout de course peut fonctionner encore quelque temps et qu'il permet un nombre de personnes non insignifiant de continuer à gagner beaucoup d'argent en continuant. Mais je ne pense pas qu'elle pourra faire bouger les décideurs de ce monde, mais en tout cas l'opinion publique certainement.
Peut-être qu'un jour vous ferez grève le vendredi après-midi ?
Alors peut-être. Peut-être qu'on fera grève des services de l'évêché ou grève de déplacement. Mais à un certain moment, c'est vrai que des sortes de démarches, y compris peut-être un peu collectives, on est en train de réfléchir à cela aussi en lien avec la préparation de la future Assemblée des évêques.
Il faut rappeler peut-être à nos éditeurs, excusez-moi, que vous faites partie du Conseil permanent de la Conférence des évêques, voilà, depuis peu. Et donc forcément, c'est un des sujets que vous portez quand vous travaillez à cette
Assemblée. Le Conseil permanent a particulièrement en charge de préparer les Assemblées des évêques, qui sont un lieu à la fois d'échange et de choix d'orientation pour l'Église de France. Et on s'est dit, en préparant la prochaine Assemblée, mais on ne peut pas se contenter d'accueillir de manière heureuse cet appel très fort que le pape nous adresse dans Laudato Si et depuis de manière très répétitive, et ne pas prendre à bras-le-corps, mais vraiment à bras-le-corps, cette question, non pas d'écologie au sens de faire un potager dans le jardin de l'évêché, même si c'est pas interdit de le faire, mais d'écologie intégrale, qui inclut aussi le respect de la vie naissante et de la vie finissante, qui inclut la justice sociale, donc une écologie intégrale, oui, qui prend toutes les dimensions de la vie et de l'existence.
J'en viens à l'action. J'ai repéré que plusieurs mouvements, comme Caritas Monde, dans le Secours catholique et l'Antenne française, appellent à la désobéissance civile devant l'inaction du gouvernement. Voilà, le Caritas et Coronum, c'est un dicastère du Vatican. Et qu'est-ce qu'il faut en comprendre ?
La désobéissance civile, évidemment, c'est un concept qu'il faut manier avec délicatesse, mais à un certain moment, quand une loi n'est pas juste, ou qu'on considère qu'elle n'est pas juste, ou qu'elle est dangereuse, on peut choisir, y compris en risquant de se mettre hors la loi, en risquant éventuellement l'emprisonnement ou un certain nombre de sanctions qui peuvent passer par des sanctions économiques, on peut choisir de passer outre. Je pense à certaines personnalités dans notre société qui ont choisi d'aller outre l'interdiction d'accueillir chez soi parce que ce serait assimilé à une démarche malhonnête des migrants.
Oui.
Ou l'interdiction d'aider des migrants à franchir une frontière.
Il y a eu des procès récemment.
Voilà. Oui. Et donc il y a eu une déclaration intéressante d'ailleurs du Conseil d'État en disant qu'il n'y avait pas de délit de solidarité. Donc parfois dans notre société, exercer une certaine solidarité peut nous conduire à nous retrouver devant le législateur. Eh bien si cela arrive, dans certains cas et pour des choses graves, finalement c'est notre honneur que de nous retrouver devant le législateur pour avoir protégé des personnes, protégé notre maison commune et pour avoir pris à bras le corps des sujets essentiels. Alors, il faut, c'est ce qui peut être intéressant dans les désobéissances civiles, surtout quand elle est inspirée par la non-violence, c'est vraiment une réflexion sur les moyens. On ne peut pas défendre une cause juste avec des moyens injustes. Donc l'agression très violente contre les personnes, bien sûr, mais même contre les biens, est sans doute à exclure. Donc là aussi, il faut être imaginatif pour trouver des moyens d'action et de désobéissance civile qui soient en harmonie avec le respect que l'on doit aux personnes, aux institutions. Mais désobéissance, le mot est fort.
Les écoliers et les lycéens rentrent là pour une période de 2 semaines de vacances. Là, ça y est, c'est les vacances de la Toussaint qui commencent. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire pour éveiller la conscience de leurs aînés?
Je pense que leur parler, déjà, je ne sais pas si vos enfants s'efforcent de dire « bon, je vais essayer de convertir papa et maman à des pratiques plus écologiques » ou c'est peut-être que vous êtes déjà complètement dans ce type de pratique.
Hélas, non, mais oui, on y travaille.
Mais je pense que, d'ailleurs, on l'a constaté les uns et les autres dans nos vies de famille, à un certain moment, les enfants peuvent avoir une vraie influence sur les parents, en disant « écoute, papa, on va traverser la moitié de la France pour aller passer un week-end avec notre voiture qui va polluer. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs vraiment sympas à faire dans notre région ? Il y a des belles montagnes en Ariège. On n'est pas obligé d'aller non plus au bord de la mer. Il y a des lacs d'altitude très frais en plus. » Donc je pense que des enfants sont tout à fait capables de cela. C'est pour ça qu'un travail éducatif y compris, je crois que le 22 décembre, il y a une journée dans laquelle on est invité à prendre des sacs poubelles, autant que possible biodégradables, et aller nettoyer notre environnement, les bords de la rivière, avoir des actions collectives comme ça avec les écoles, avec les mouvements scouts, pourquoi pas, avec l'aumônerie, avec la catéchèse, pour sensibiliser aussi les jeunes qui nous sont confiés à cette attention-là.
On entend un petit peu parler d'un label que l'Église s'efforce de répandre, le label Église verte. Qu'est-ce qu'il suppose? Quel est son objectif?
C'est un label intéressant. On a choisi aussi de se pencher plus précisément sur ce label-là avec la conférence des évêques. C'est un label œcuménique, donc d'églises chrétiennes qui se mettent ensemble pour proposer, par l'entremise d'un site internet et d'outils pédagogiques, des actions très concrètes pour essayer d'améliorer sa manière de vivre au quotidien pour qu'elle soit plus économe en énergie, plus respectueuse de l'environnement. Et à mesure qu'on grandit dans nos pratiques, en quelque sorte, on est récompensé. On a un label de niveau 1 ou un label de niveau 2 ou de niveau 3. Et donc, une paroisse peut adhérer à ce label vert, un diocèse, une province,
et vous,
et pourquoi
alors
pas une conférence, et puis des personnes individuelles aussi. Mais alors, je ne sais pas si c'est prévu pour les personnes individuelles. On invite toujours, c'est aussi une démarche très ecclésiale,
à être dans un mouvement, bien sûr.
Et à vivre cela en groupe.
Bien sûr. Donc, bientôt, votre diocèse sera labellisé Église verte.
Voilà, on espère.
On espère. Merci beaucoup, Monseigneur Hachette.
Merci à vous.
Et à la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques.